redécouvrir Hélène Pedneau. Série de balados sur les écrits et la vie de Hélène Pedneau, regroupant des lectures d'œuvres et des extraits d'entretiens avec des personnes qui l'ont côtoyée. Deuxième série, La douleur des volcans. Sixième épisode. Peur de la mémoire. J'ai peur des vieux qu'on laisse dormir seuls dans des taudis avec une cigarette mal éteinte et qui brûlent vite comme du bois sec en entraînant des voisins avec eux. J'ai peur des vieux qu'on écrase dans les rues parce qu'ils vont moins vite que les autos et que parfois leurs oreilles qui en ont trop entendu ne les entendent pas venir. J'ai peur des vieux qui n'ont pas faim parce qu'ils n'ont pas d'argent. J'ai peur des vieux qui meurent d'ennui. J'ai peur des vieux qui meurent de froid. J'ai peur des vieux qui meurent en plein été et qu'on découvre une semaine plus tard parce que l'odeur est plus insupportable pour les autres que l'exil forcé dans lequel ils meurent. J'ai peur des vieux qui meurent seuls. J'ai peur des vieux qui préfèrent leur petit monde à notre monde, qui les entourent sans les entourer parce que notre monde n'a plus de bras, n'a plus de mains. J'ai peur des vieux qui accumulent leurs déchets dans leur cuisine, au troisième étage, au lieu de les descendre à la rue, parce que les employés des services de désinfection ont trop d'ouvrages quand ils les trouvent, et que ce n'est pas agréable pour quelqu'un qui aime la vie de voir des photos de ça à la une des journaux en kiosque parce que le reporter du Journal de Montréal était sur les lieux. J'ai peur des vieux qui ne voient plus personne et que plus personne ne voit, qui ne fréquentent plus personne et que plus personne ne fréquente. J'ai peur des vieux qui se souviennent. J'ai peur des vieux qui vieillissent maintenant, qu'on met en quarantaine, comme si la vieillesse était une maladie qui s'attrape, alors qu'ils ont souvent deux fois la quarantaine. J'ai peur des vieux dont on se sert pour régler la crise de la construction en transformant des parkings en poulaillers pour parquer leur grand âge, leurs mains qui tremblent et leur maladie nécessairement honteuse. J'ai peur des vieux dont on se sert pour faire de la chair à statistique. On dit qu'il y a trois sortes de mensonges, les petits mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Je fais actuellement partie de plusieurs sortes de statistiques, comme femme, célibataire, sans enfant, travailleuse autonome, écrivaine, porteuse de lunettes, consommatrice culturelle, etc. Que vais-je devenir quand je ne ferai plus partie que des statistiques qui étudient les vieux? C'est pour ça que j'ai peur des vieux. En fait, j'ai peur pour eux et pour nous qui avons 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Nous qui avons une espérance de vie de plus en plus grande selon les statistiques. Quelle drôle d'expression quand même, espérance de vie. Le monde est lourd, je le porte comme une chevelure de béton. Comment voulez-vous que je puisse vous donner la lune? L'art de la gigue. Nous aurons été, à chaque repli de mémoire, les danseurs mutilés d'une idée difficile. Quand nous n'avions pas les reins cambrés, quand on nous tirait dans les jambes, on a appelé ça une gigue. Nous aurons été, à chaque parole arrachée, les choristes d'un cœur engourdi dans le ventre grégorien, quand nous étions aphones, quand nous n'étions pas musiciens. Que de pièges à faire claquer dans le vide, croc sur croc, quand on refuse d'être la proie. Que de cris à sortir du formol rassurant de la liberté à désirer. Nous aurons été homoncules et fourmis, résignés à passer sous le pied, à croquer sous la dent. L'espoir, c'est la camisole de force qu'on m'enfile à coups de décret et que, patiemment, je détricote avec mes dents.
Dès le petit déjeuner, là, ça commençait, là, l'ébullition, ça commençait. Et moi, durant mes études, quand j'étais étudiante, je faisais un travail d'étudiante, j'étais téléphoniste. Et en anglais un tableau de bord de téléphoniste, ça s'appelle un switchboard. Et Hélène m'appelait presque tous les matins, 7h15. Et elle, la première question qu'elle me posait, c'est « Est-ce que le switchboard est ouvert? » Alors donc, il fallait que dès le matin, j'avais droit à l'éditorial d'Hélène. Alors, « As-tu vu ça? As-tu regardé ça? C'est incroyable! Non, mais... » Et tout ça, et c'était... Et ça me manque! Ça me manque tellement de pas avoir ce rapport intellectuel avec une femme de cette envergure-là. Donc, quand vous me dites que beaucoup de personnes que vous avez rencontrées ont le même commentaire, ça m'étonne pas du tout.
Lettre à Rose Rose. Saint-Zénon, 8 octobre 1990. Chère Rose, Rose, je ne sais pas où vous êtes en ce moment. Je vous écris dans le vide. Les boîtes à mal ne sautent plus sur le coin des rues, mais le courrier se rend mal, surtout entre les hommes et les femmes. J'ai failli écrire une chanson sur vous à cause des 20 ans de la crise d'octobre cette année. Je n'ai pas osé. Déjà que votre double nom de fleur fait rêver, en autant qu'on sache que vous n'avez jamais été à la merci du premier sécateur venu. Vous étiez nommé d'avance comme un personnage de roman, et quand j'ai appris que votre vrai nom était Rose Dorée Rose, je me suis dit que vous étiez forcément une femme de couleur. Rose Dorée Rose. Une femme de couleur. Vous êtes partie en 1981, l'année des taux hypothécaires à 20%. Les journaux ont annoncé la flambée des taux d'intérêt. On s'en fout des taux d'intérêt, n'est-ce pas, Rose Rose ? Les femmes sont hypothéquées au coton de naissance et payent des intérêts à taux usuraire pour le reste de leur vie. On n'a jamais eu besoin des banques pour sentir dans nos corps la flambée des intérêts à payer sur un capital qui ne nous appartient pas. On vient au monde incendié et on passe nos vies à éteindre des feux partout. C'est bête. Des feux partout. Depuis votre départ, certains hommes sont toujours aussi fat, Rose Rose. Souvent, ils pérorent au lieu de parler. Ça n'a pas changé. Ils sont toujours premier ministre ou président un peu partout. Et ils sont en train d'étudier la Constitution sans nous. Pourtant, les femmes sont une nation, Rose Rose. Les Indiens disent que la terre est une femme. C'est irréfutable. La preuve, on la viole. Je ne suis même plus capable de quitter mon mari sans me faire tuer en grand nombre, parfois avec tous mes enfants. C'est mieux comme ça. Je m'en vais avec eux, telle était mon intention. Les journaux annoncent une escalade de drames conjugaux. Une escalade. À la fin de 1989, un homme jeune a tué 14 d'entre nous dans une école. Ça va faire un an bientôt. Elles ont été fauchées par le premier sécateur venu qui n'avait su enregistrer que la misogynie sourde et ambiante dans son canal à vif. Ce n'est pas sa faute, il y a trop d'interférences. Il était un amputé qui pleure son membre absent. Ce jour-là, Rose Rose, j'ai décidé d'apprendre par cœur le nom de tous les volcans comme un mantra pour que le pu sorte de la terre et qu'elle guérisse. Nos doigts ne seront jamais assez gros pour crever les volcans comme des boutons. De simples boutons. Depuis le 6 décembre 1989, il continue de vendre des mitraillettes dans les magasins, au coin des rues. Les journaux ont annoncé que les Indiens avaient un arsenal. On les a vus à la télévision, armés, comme les gars de l'armée. Ils nous étalent sans pudeur la beauté de leurs armes aimées, bien frottées, sans penser qu'ils nous écœurent jusqu'au tréfonds de nos vies. Ils pensent peut-être qu'on mouille quand ils se déguisent tous en warriors, indiens ou blancs. Nous serons le ver dans leurs fruits, Rose Rose, et avec leur violence, nous ferons du compost. Du compost, Rose Rose. Cette année, un Indien est entré dans l'histoire du Canada en disant non. Il s'appelle Elijah Harper, mais les noms des femmes restent toujours des denrées périssables. Certains types d'oreilles atteintes de malformations génétiques millénaires ne les entendent pas, et les noms pourrissent dans les bouches des femmes pendant que leurs corps sont massacrés de diverses façons, parfois légalement. Avant, les femmes n'avaient pas plus de droits que les Indiens dans le code civil. Alors, si les noms des Indiens se mettent à avoir du poids, on peut espérer que les noms des femmes prendront aussi de la valeur un jour. Malheureusement, pour voter une loi comme celle sur l'avortement, on exige que la majorité et non pas l'unanimité. Imaginez, Rose, une seule députée dire non, tranquillement, sans violence, à tout débat, à toute question, à tout compromis, à tout amendement à une loi sur l'avortement et en empêcher l'adoption, comme Elijah Harper l'a fait pour l'accord du lac Meech, appuyé par tous ses frères et sœurs. Le rêve, Rose. Mais nous n'en sommes pas là. Nous n'avons jamais eu le sens des barricades, à part Madeleine de Verchères, Carcasse et Louise Michel, à ma connaissance. Mais nous savons tricoter bien serré quand il fait trop froid. Trop froid. Dans les annonces classées du journal Voir de la semaine dernière, sous la rubrique « Antiquité », il y avait deux totems à vendre. La crise amérindienne est bel et bien terminée. Dans un autre journal, c'était marqué que 1% des Québécois avaient du sang amérindien dans leurs veines. Mais le journaliste s'était trompé. Il y a 1% de sang amérindien en moyenne dans chaque Québécois. Peu de gens ont vu la correction, apportée un autre jour par le spécialiste qui sait calculer le pourcentage du sang dans nos veines. Du sang dans nos veines. Les femmes sont une nation, Rose. Elles ont 50% de sang de femmes dans leurs veines. Les hommes aussi, mais cette information capitale est tombée dans leur amnésie. Les Indiens disent que les femmes voient jusqu'à la 7e génération. C'est beau. C'est pour ça qu'elles nomment les chefs de tribu. Que voyais-tu, Rose, quand tu as reconnu, à l'odeur, devant le juge Jacques Trahan, le chandail de ton fils Paul retrouvé sur le ministre Pierre Laporte mort? Tu as dit que ça ne pouvait pas être le chandail de Jacques, parce qu'il ne sentait pas l'essence et que tous les vêtements de Jacques sentent l'essence. Tu connais bien tes fils, Rose. Bien tes fils. Tu vois, sans y penser, je me suis mise à te tutoyer, peut-être pour me rapprocher de toi. De toi. Jusqu'où voyais-tu, Rose, quand tu as reconnu en pleurant devant le juge Jacques Trahan le couvre-pied que tu avais tricoté et qu'on a retrouvé sous le cadavre de Pierre Laporte? Jusqu'où voyais-tu? Je ne sais pas. Tu étais petite, tu portais une robe noire et des lunettes. C'était écrit dans le journal. J'avais 18 ans et je n'ai pas eu d'enfant. Tu avais 50 ans, Rose. Tu avais 2 fils et 3 filles. 3 filles. La vie est toujours bien plus belle dans nos cœurs, Rose. Ça n'a pas changé depuis ton départ. Dans nos cœurs, on vote contre une loi et ça marche. Dans nos cœurs, on vit des histoires d'amour bien plus belles que les luttes de pouvoir qui finissent parfois en faits divers. Dans nos cœurs, personne ne crosse personne. Les exploiteurs, les violeurs, les intrigants, les violents, les imbéciles, les politiciens véreux, Pierre-Éliott Trudeau et les pollueurs sont toujours punis. Dans nos cœurs, les bons gagnent toujours. Notre cœur est un happy end qui s'est trompé de société. Notre cœur est un mauvais film américain. Un mauvais film. Dans nos cœurs, il n'y a pas de différence notable entre les gens, en dehors du fait que certains d'entre nous ont des aortes ou des ventricules bouchés et qu'ils perdent le souffle en montant des étages sans ascenseur. Tous les cœurs sont d'un beau rouge vif, Rose. Ils saignent. D'un beau rouge vif. Quand j'étais petite, Michel le magicien faisait tous ses tours de magie avec l'aide de la mystérieuse poudre de perlimpinpin. Il réussissait à faire sortir de son chapeau claque des lapins ou autre chose, mais c'était toujours quelque chose de beau. Il n'y a plus de Michel le magicien nulle part, Rose. Nous en aurions bien besoin en ce moment. Bien besoin. À plus tard. Rose dorée, Rose. À plus tard.
Aussi, et ça c'est une des grandes caractéristiques, grande qualité de Penn, elle était une amoureuse, pas seulement des femmes, mais elle prenait sur elle de faire une place pour les femmes dans l'histoire et dans le monde. Elle était toujours en train de nous rappeler à nous-mêmes que on n'est pas parce qu'on est des filles ou des femmes qu'on n'a pas le droit, puis qu'on ne vaut rien.
Vivre. 1. La blessure. La petite fille apprend, jeune, à distiller l'information qu'elle possède. Elle saupoudre seulement quand ça manque de sel et de poivre, jamais autrement. Par exemple, elle cache à tout le monde qu'elle est née d'une blessure et que la blessure ne s'est jamais cicatrisée. On peut vivre quand même. Des pays entiers sont construits sur des failles géologiques. La petite fille se voit accrochée aux parois de la blessure qui s'éloignent lentement l'une de l'autre, comme aux États-Unis où une faille célèbre déchire la Californie, et personne ne lui lance une corde. Les autres croient que ses doigts sont des serres sertis de griffes acérées et qu'elle peut tenir ainsi seule, facilement, jusqu'à sa mort. S'il lui lance une corde, il croit qu'elle va venir aussitôt les lacérer. La petite fille aime les légendes, mais ne supporte pas d'y être enfermée. Les autres attendent qu'elle tombe de haut avec une lueur vive dans les yeux, comme au cirque. La petite fille n'est pas responsable de leurs croyances. Oiseaux de proie ou acrobates, ils ne savent pas qu'elle est en train de mourir. 2. Le grand-père. Son grand-père a fait ça avant elle, mourir. Déjà, il est aveugle. Sur ses yeux, il y a de la peau en trop. Quand il vient en visite, la mère de la petite fille lui met une corde de son lit aux toilettes, de jour et de nuit. Il y a tant de nouveaux pièges, même pour aller pisser. La petite fille est fière d'avoir un grand-père si différent des autres, fière de cette corde qui traverse le grand corridor de l'appartement et entre dans la chambre où le petit grand-père dort dans sa nuit avec sa grosse moustache blanche. C'est comme un jeu en vrai. Elle en parle dehors, à ses amis, et le jeu devient une légende. La petite fille aime que des mots simples comme « grand-père » et « corde » se changent en mystère dans les oreilles des autres. En réalité, la corde est une liane amie dans une jungle menaçante pleine de fauves assassins à la gueule ouverte. Les cannibales ont creusé de terribles fosses et mis des pieux pointus enduits de curare au fond. Mais rien n'y paraît puisqu'ils ont placé des branches et des grandes feuilles de palmier sur le trou pour que les proies croient le sentier sans danger. La petite fille croit dur comme fer à son histoire. Mais elle ne parle jamais de la jungle et des pièges à ses amis pour ne pas jeter d'effroi additionnel sur le mystère qui en contient déjà sa part. Déjà, le petit homme ne parle pas du tout la même langue. Aussi bien dire qu'il est muet et que les autres sont sourds puisqu'il ne se fait pas tellement comprendre. Ajouter une langue incompréhensible à la corde et à la peau sur les yeux aurait été trop pour ses amis de la rue Montfort. La petite fille a 9 ans. Jusque-là, elle n'a en tête que de drôles d'images tendres sur son grand-père. Il y a sa moustache blanche, toujours auréolée d'orange parce qu'il mange des pâtes sans voir la sauce qui l'éclabousse. Il y a sa voix de terre sèche, où l'excès de soleil dur a fait pousser des roches qui déboulent en avalanche dans sa langue. Il y a ses pantalons trop grands, tenus par des bretelles trop larges, sur un maillot de corps à boutons d'où dépassent quelques poils blancs. Une image de pantoufle qui frotte le plancher lui revient aussi, avec ce geste qu'il a de tendre ses mains aveugles devant lui pour prendre dans ses bras la petite fille qui court dans la cuisine autour de la chaise berceuse, sa résidence principale. Il la berce en lui racontant des histoires qu'elle ne comprend pas, mais qui la font rire parce qu'elle ne les comprend pas. Il la touche au visage pour la reconnaître, mais il ne voit pas toujours bien et la petite fille rit encore plus. Le grand-père touche comme s'il était resté un enfant. Il rit, lui aussi, en sortant des tréfonds de sa poche une vieille pièce toute froissée qu'il cache comme un secret dans la main de la petite fille. Elle se souvient bien qu'il rit, d'un rire aussi râpé que sa voix, et qu'il parle fort au téléphone avec ses amis qui parlent comme lui. La petite fille ne sait pas encore que ces images bien en chair peuvent devenir aisément des souvenirs boiteux. Elle ne connaît pas la mort. Ce juillet-là, il fait très chaud. Un soleil dur et blanc répand sa lave de métal brûlant. Docile, les gens suivent l'ombre à mesure qu'elle bouge. Un temps de soif et de silence accablé. La petite fille arrive en autobus chez son grand-père. Cette fois, la famille est partie très vite, en oubliant des choses. On vient voir le grand-père qui est mort. La petite fille n'a aucune image disponible sur cette nouvelle chose qui vient d'arriver à son grand-père. Elle attend de voir. La première chose, c'est un matelas sans drap, debout, couvert de sang, dans la cour. Il n'aurait jamais dû le mettre là. La chaleur attire toutes les mouches du village, ça n'est pas hygiénique. La chaleur empêche la petite fille de chasser l'image du matelas qui devient elle-même une mouche collante. Elle devine que ça doit être le matelas de son grand-père. Mais pourquoi l'ont-ils mis au vidange? Il faut bien qu'il dorme. Il lui reste sa chaise berceuse où il faisait déjà sa sieste l'après-midi. Peut-être qu'ils lui ont acheté un matelas neuf parce que quelqu'un a répandu du sang dessus sans le faire exprès. La petite fille manque d'air. Son cœur lui fait mal. La chaleur, sans doute. Elle tient la main de quelqu'un. Ils entrent dans la maison, mais le grand-père n'est pas là. C'est la première fois qu'il n'est pas là. Elle n'ose pas demander où il est, ni pourquoi il y a du sang sur le matelas dehors. Elle fait comme si elle n'avait rien vu. Ça marche, tout à coup. Tout le monde sait combien elle est distraite, toujours le nez dans un livre. Le film saute, comme dans le vieux projecteur de son père où vivent Abbott et Costello. Les souvenirs collés restent pris dans le mécanisme. La chaleur, sans doute. L'image d'après, elle est dans un drôle d'endroit plein de gens avec du tapis qui étouffe les bruits. Le tapis ne sert pas à grand-chose, les gens parlent déjà tout bas. C'est ça le plus angoissant. Dans sa famille, d'habitude, tout le monde parle aussi fort que le grand-père au téléphone. On lui dit que son grand-père est là. Mais pourquoi tout le monde est-il venu en même temps? Est-ce qu'on lui a mis une corde dans ce nouvel endroit pour qu'il puisse trouver les toilettes? Quelqu'un y a-t-il pensé? Ils parlent tout bas, mais ils sont bien agités. Ils ont pu oublier la corde, un détail pour eux, une main amie pour lui. C'est ça, ils ont oublié la corde et sa mère vient de s'en rendre compte parce qu'elle pleure. Entre les gens, la petite fille voit une boîte avec quelqu'un dedans. Elle est curieuse. Elle voit un vieil homme au visage maigre, les yeux fermés et les mains jointes sur son bel habit noir. Il prie. Elle n'a jamais vu quelqu'un prier autant. Sur la boîte, il y a une belle photo de son grand-père. Elle regarde le visage de l'homme. Elle regarde la photo. Elle regarde le visage de l'homme qui n'a pas de moustache blanche avec du jaune orange. Heureusement, c'est un autre. Elle regarde la photo. Son grand-père n'a jamais besoin de fermer ses yeux puisqu'il est aveugle. Si c'était lui qui dormait là, il aurait les yeux ouverts. Elle regarde le visage de l'homme. C'est un autre. Mais qui ? « Regarde comme il est beau, grand-papa, » dit sa mère. « Il est au ciel maintenant. »« Grand-papa ? » Si sa mère se trompe autant, c'est qu'il doit être arrivé quelque chose de très grave. Sa mère ne se trompe jamais. Son grand-père ne peut pas être reparti dans son pays, c'est impossible. « Mais il n'aurait pas dû lui couper sa moustache, » ajoute ma mère, qui a toujours raison. Des hommes ont déménagé la boîte dans une auto noire. Le temps a dû s'arrêter en cours de route parce que la petite fille ne le trouve plus. Elle est seule. 100 ans, au bord du trou qui a l'air d'attendre que le prêtre finisse de parler en latin pour avaler la boîte. Il y a de grosses courroies autour de la boîte, qui ressemblent à la courroie de cuir épais qui sert à aiguiser le rasoir de son grand-père. Aux quatre coins, il y a des poteaux en or massif qui luisent au soleil. Il y a un gros arbre pas loin du trou, et il fait terriblement chaud. À côté du trou, il y a une grosse motte de terre. La petite fille ne sent strictement rien sauf le froid qui vient du fond de la terre qu'ils ont creusé. Ils ont creusé trop creux et ils sont arrivés à la glace. Elle frissonne. Elle doit être trop proche du trou. Ils ont fermé le couvercle de la boîte et elle se demande seulement s'il n'aurait pas oublié son grand-père dedans, sans corde. Le prêtre a fini de parler et de jeter de l'eau sur la boîte. Le silence flotte en brume lourde et collante. Un oiseau crie. Un homme tourne une poignée qui grince aussi fort que l'oiseau pendant que les courroies laissent s'enfoncer la boîte dans le trou. Des notes suraiguës crèvent le tympan. Personne ne bouge. Personne ne fait cesser ce bruit d'ongles sur tableau noir. Ils ne vont pas laisser faire ça. Elle remarque soudain une pelle dans la motte de terre. Ils ne vont pas laisser enterrer la boîte avec son grand-père dedans, ils sont fous. Et lui qui se laisse faire. La petite fille va sauver son grand-père. « Grand-papa, réveille-toi, viens-t'en !» La petite fille veut se jeter dans le trou. Quelqu'un la saisit. Elle se battra jusqu'à ce que le bruit cesse, jusqu'à ce que grand-papa revienne du trou. Ses cris de mort mettent en lambeaux tous les gens en noir. Elle ne savait pas qu'elle avait aussi long de cris en elle. Elle hurle à la mort qu'elle ne peut pas griffer, parce qu'elle ne sait pas où elle est ni à quoi elle ressemble. De son grand-père, il ne lui reste que l'image épuisée d'un vieil homme aux joues creuses imprimée sur un matelas inondé de sang et de mouches. Elle ne voit que ça. La photo s'imprime à vif sur sa rétine comme une peau en trop. Elle ne voit plus. Son oiseau de proie ouvre son bec coupant, les serres agrippées à la boîte fermée. On vient de lui voler son petit. Quelqu'un traîne la petite fille loin du trou et l'assoit dans une voiture vide en attendant les autres. On dirait qu'elle pleure d'avance toute la vie qui s'en vient. 3. J'écris. J'écris pour ne pas que les parois de la blessure de la petite fille se referment sur elle sans qu'elle ait eu le temps de vivre. Une pièce inachevée traîne sur le bureau. Deux personnages sont sur le devant d'une scène. Deux femmes, deux hommes, ou un homme et une femme. Derrière eux, un couloir de lumière fend la scène en deux, en largeur, illuminant une corde tendue de part en part. Les deux personnages parlent de tout et de rien. Ils se plaisent. Un vieil homme avec une moustache blanche, petit, traverse la scène doucement. Il porte des pantalons trop larges, retenus par des bretelles larges et rayées d'un modèle ancien sur un maillot de corps à boutons, comme nos grands-pères en portaient. Il marche à petits pas, avec précaution, en se traînant les pieds. Il porte des pantoufles de cuir usées. Un des personnages sursaute et se retourne en l'entendant passer, un peu effrayé. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est rien. C'est juste un aveugle qui s'en va pisser. » Vous venez d'entendre un morceau de « La douleur des volcans » de Hélène Pedneau, ainsi que des éléments d'entretien avec Nicole Boudreau et Francine Pelletier. Redécouvrir Hélène Pedneau, une série de balados proposés par Marion Cousineau. Lecture, entretien et montage sonore, Marion Cousineau. Thème musical, Jean-François Groux.